Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Un magazine qui tient bon la barre dans la tempête, qu'elle s'appelle Barbara ou Covid-19, mais si nous tenons bon, c'est aussi parce que la plupart des acteurs culturels ont décidé de ne pas courber les chines. Après le coup de massue de l'annonce du couvre-feu à 21h, nous étions nombreux à redouter que ce nouveau coup du sort mette encore entre parenthèses la vie musicale ou qu'il l'oblige au mieux à tourner au ralenti pendant quelques temps. Fort heureusement, il y a de la ressource et une grande faculté d'adaptation chez ceux qui font la musique à Toulouse et dans notre région. Des solutions ont pu être trouvées pour avancer les événements musicaux prévus en octobre-novembre, ce qui va nous permettre de vous les annoncer et de vous les présenter avec ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Tout d'abord Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, nous retrouvons Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et tous les trois, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Gresti, directeur artistique du Théâtre du Capitole, notre invité d'honneur aujourd'hui, avec qui nous allons évoquer en seconde partie d'émission le week-end forêt qu'il présente dans son établissement ces samedis et dimanches. Mais n'anticipons pas, laissons-nous d'abord le temps de revenir sur l'actualité musicale des derniers jours. C'est parti pour un retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité musicale récente nous amène justement au Théâtre du Capitole, où la grande soprano lettonne Marina Rebeka a donné un récital la semaine dernière, jeudi 15 octobre. Elle y était accompagnée par le pianiste Mathieu Pordois dans un programme italo-russe d'air et de mélodie. L'affiche était plutôt originale, avec quelques raretés même. Notre spécialiste de la voix, Robert Pénavert, a assisté à la prestation de Marina Rebeka. Avez-vous passé une bonne soirée en écoutant cette chanteuse, Robert ?
Bien évidemment, mais alors je tiens quand même, parce qu'elle n'est peut-être pas très très connue, malgré qu'elle ait ouvert la saison dernière au Théâtre du Capitole avec Norma, elle n'est peut-être pas très connue des mélomanes. Alors pour la situer, alors qu'elle donnait un récital à Toulouse, peu de temps avant, elle a donné la même chose à la Scala de Milan. Elle va chanter Otello à Florence, elle va chanter Le Trouvert à Paris, elle va chanter Thaïs à Monaco, enfin évidemment, sous réserve. Bien sûr que ces choses, mais enfin du moins, voilà l'artiste que Christophe Gresti nous a permis d'écouter.
Elle est demandée partout, c'est ce que vous voulez dire.
Ce qui est quand même, et partout et pas n'importe où.
Et pas n'importe où.
Voilà. Et donc, je ne dis pas ça parce que monsieur le directeur du Théâtre des Capitoles est en face de moi, mais il ne serait pas là, je le dirais quand même. Voilà. Et donc, c'est une étoile en fait, c'est une étoile du chant que nous entendons. Alors, elle est venue, effectivement, vous avez cité le nom du pianiste. Alors, pourquoi ne pas dire qu'il est né à Saint-Paul-les-Dax, quand même, qui n'est pas très très loin de Toulouse. Et voilà, c'est un gars du Sud-Ouest qui accompagne, bon, non seulement Marina Rebeka, mais également, je pense qu'il est assez près d'une autre très grande soprano internationale, qui est Diana Damrau, si je ne me trompe. Voilà, mais ça situe le niveau. Alors, elle venait dans un répertoire, c'est toujours un peu sensible à Toulouse, le répertoire de la mélodie. Parce que la mélodie, c'est pas que du chant, c'est pas que du piano, c'est aussi du texte. Et donc, effectivement, lorsqu'on n'est pas familier avec la langue de Dante ou avec la langue de Tolstoï, c'est un peu difficile de comprendre quel est le niveau d'interprétation. Alors, dans ces cas-là, ce qui est mon cas pour la langue russe, dans ce cas-là, il faut se laisser couler dans la musicalité. Heureusement, dans le programme de salle, il y avait la traduction en français, et donc on savait à peu près ce qu'elle chantait, et donc il ne restait plus qu'à se laisser couler dans ces flots, ces vagues de nuances, de musicalité, de sentiments qu'elle mettait. Mais, et là, ça a été la grande surprise de la soirée, vous savez, parfois, les chanteurs, après un cycle de mélodies, il leur est très difficile d'ajouter un bis, parce que, bon, après le voyage d'hiver, ou la belle meunière, ou des choses comme ça, un bis, toujours un peu difficile, dramatiquement, musicalement, à ajouter. Là, c'était, en première partie, on avait du Verdi, du Tosti, du Respighi. Voilà, en deuxième partie, on avait du Tchaïkovski, César Cui, Rachmaninov. Finalement, Marina Rebeka a trouvé que peut-être, et surtout vu l'accueil enthousiaste, les gens étaient debout au Théâtre du Capitole à l'applaudir et à réclamer, évidemment, à réclamer ce qu'ils attendaient. En fait, c'était de l'opéra. Et elle nous a gâtés. Non, mais imaginez-vous, après un récital qui était déjà largement fourni et dans lequel elle s'était donnée, mais à plus de 100%, bon, c'est ridicule, elle s'était donnée à 100%, pardon, eh bien, elle nous a donné, vous savez, Toulouse est le pays de l'Ovalie, et on a l'habitude des troisièmes mi-temps. Eh bien, elle nous a donné une véritable troisième mi-temps extraordinaire, avec quatre grands airs d'opéra, et pas n'importe lesquels. Elle a commencé, alors, je vais vous dire ce qu'elle nous a chanté, et c'était vraiment un cadeau qu'elle faisait, parce qu'elle n'est pas allée chercher des airs d'opéra baroques de Handel ou de Vivaldi, que personne ne connaît. Non, 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 non. Elle a voulu nous faire un cadeau en nous disant, bon, écoutez, voilà, je suis là, vous m'avez accueilli, vous m'avez applaudi, vous m'avez écouté. Religieusement, il y avait un silence dans ce théâtre du Capitole extraordinaire. Eh bien, maintenant, à moi de vous faire un cadeau. Elle a débuté avec le grand air de Butterfly de Puccini. Ensuite, rien moins que le Castadiva de la Norma.
Norma, ben oui, là, ça voilà. Rappelle des souvenirs à beaucoup de gens dans la salle, sans
ben,
doute.
Oui, bien sûr. Et puis ensuite, elle a continué avec un air de la Wally. Eh bien, Andro Lontano, mais ça, je crois que franchement, je ne l'ai jamais aussi bien entendu chanter. C'était, rien que d'en parler, j'ai le frisson. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans l'ambiance, dans le personnage, dans la situation, qui évidemment n'est pas forcément celle d'un opéra comique. Hein. Et elle a été, mais fabuleusement, j'avais les larmes aux yeux. Et juste pour dire que, pour donner un pareil impact émotionnel, il faut être une artiste, une grande artiste. Je l'ai plusieurs fois dit à ce micro, peu de chanteurs sont capables d'être des artistes. Elle, c'est une grande chanteuse, mais c'est aussi une artiste. Et elle a terminé avec quelque chose que, oh, je ne dis pas si tout le monde l'attendait, mais dans tous les cas, ben voilà, c'était quelque chose de pétillant, de formidable, avant quelques catastrophes à venir dans l'opéra, mais ça, c'est une question de dramaturgie, c'est le Boléro des Vèbres siciliennes, dont on retournait à Verdi. Et c'était, elle avait commencé à Verdi, on a fini avec Verdi.
C'était un vrai voyage musical. Hein.
Ah oui, oui, mais c'était... Bon, après, au bout d'un moment, bon, on a vite compris qu'il fallait la laisser partir. Mais les gens étaient debout, voilà, le public était debout. Après, la voix, alors, on parle du programme là. Hein. La voix, en fait, c'est ce que j'appellerais, moi, un grand lyrique. Alors, ce n'est pas fondamentalement un grand dramatique, mais c'est un grand lyrique avec une voix très homogène et longue. Et alors, de temps en temps, pas souvent, trois ou quatre fois au cours de la soirée, pour donner un peu plus d'impact à une note grave qu'elle n'a pas forcément, mais on est vraiment dans l'extrême extrémité du grave. Il y en a, vous savez, qui poitrinent beaucoup plus haut, de très grandes, mais elle, non. Elle utilise entièrement son corpus vocal et avec beaucoup de virtuosité et subtilité. Et là, à deux ou trois reprises, elle a poitriné, mais ça avait un sens. Et n'oublions pas que dire poitriner, ce n'est pas une injure. Hein, ça appartient intégralement au style belcantiste. Voilà. Et justement, en parlant du style belcantiste, quand on entend sa Norma, quand on entend ses diminuendo, quand on entend ses vocalises, on s'aperçoit quelle grande belcantiste elle est. Je sais qu'elle chante des reines Tudor. Je crois que c'est Anna Boleyn, je crois. Je sais également qu'elle a son répertoire quelque chose infernal qui est le pirate, Imogène du pirate. Je crois qu'elle a son répertoire. Alors, Christophe Christy, si jamais vous manquiez d'idées, mais je sais que ce n'est pas le cas. On a l'une des rares interprètes capable d'aborder les Tudors et les Imogène du pirate. Voilà, une très, très grande soirée.
Alors, sur cette soirée, Christophe Christy, vous pouvez peut-être dire un mot sur l'accueil qu'a reçu Marina Rebecca, et peut-être aussi sur ses impressions à elle de revenir au Théâtre du Capitole et d'être accueillie de la sorte.
Écoutez, oui, d'abord, c'est vrai que le public a été merveilleux. D'abord, la salle était... Donc, on joue en ce moment à jauge réduite, à peu près à 650, mais on était au plein de la jauge réduite, ce qui est fantastique, et c'était complet depuis pas mal de temps déjà. Et le public, c'est vrai, lui a fait une fête. C'est merveilleux d'avoir un public comme ça, d'avoir un public qui réagit comme ça. Moi, j'étais... Elle était enchantée, elle était ravie. Depuis normal, c'est pas pour rien qu'elle était là un an après, ce qui était le plus vite possible, en quelque sorte, puisqu'elle avait adoré être là pendant Norma. Là aussi, le public lui avait fait un triomphe. Et ben donc voilà, elle se sent très bien ici. Je pense pas que ça se sache dans le grand public, mais c'est vrai que le Capitole a pris cette réputation d'être un théâtre où on aime, où on soigne les artistes, où on les, dès qu'ils arrivent, ils sont dans un nuage d'amour qui les porte. Dans les derniers temps, on a eu tellement de performances exceptionnelles de gens qui se donnaient à fond. C'est pas pour rien.
Parce qu'on les met dans les conditions qui leur permettent de faire.
Il y a toute une maison de tout le personnel technique, les habilleurs, les maquilleurs, la régie, tout le monde porte ces gens. Vraiment, je veux leur rendre hommage. Et toute cette maison adore les artistes qui viennent ici. Donc, ils se sentent portés. Et quand, en plus, il y a la réponse du public comme ça, ben voilà, donc elle va revenir. Ça, c'est très clair. On le savait même avant le récital. Mais elle se sent bien ici. Elle est heureuse ici. Donc, ça, pour moi, c'est merveilleux.
Eh bien, vous m'avez tous les deux donné envie d'écouter Marina Rebecca. Je pense que nos auditeurs ont eu aussi envie d'entendre sa voix. La voici dans une interprétation d'une mélodie de Rachmaninov, « Ne poi krasavitsa prinne ». Ne poi krasavitsa prinne, ne chante pas pour moi ma belle, une mélodie de Sergueï Rachmaninov sur un poème de Pouchkin, chanté par Marina Rebecca, qui était donc en récital jeudi 15 octobre au Théâtre du Capitole. Et Christophe Grissi, vous vouliez nous confier une anecdote, un mot qu'elle vous a laissé avant de partir de Toulouse.
Oui, parce que Robert Panavert a évoqué cette séance de bis, qui était incroyable, après le récital, qui était lui-même déjà en effet très abondant. Et elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Donc elle connaissait la situation, elle savait que deux jours après c'était le couvre-feu. Et elle m'a dit, j'ai voulu donner, avant que les gens connaissent cette situation du couvre-feu, leur donner le plus d'énergie positive possible. Donc il y avait vraiment, c'était pas du tout pour se faire admirer, elle avait vraiment envie. Quand elle est arrivée au théâtre, elle nous a tous revus, on était tous heureux, etc. Et elle disait, mais par rapport à l'année dernière, mais quelle situation? Moi je veux embrasser tout le monde, je reviens ici, j'ai pas le droit de vous embrasser, c'est horrible pour moi. Et en partant, elle dit, voilà, je voulais donner au public le plus d'énergie possible pour affronter ce que nous avons affronté en ce moment. J'ai trouvé ça tellement touchant de sa part.
La générosité des grands artistes, comme on le voit souvent. Alors, le lendemain, l'Orchestre National du Capitole est élu en concert à la Lohengrin, une soirée donnée dans le cadre de l'année Ludwig. Il y avait donc du Beethoven au programme, mais pas seulement, Serge Chosy.
Ah oui, pas seulement. Il y avait également deux suites qui sont un peu des résumés d'œuvres plus complètes de compositeurs. Alors, l'un pas très souvent donné en concert, qui était Korngold, et l'autre, Richard Strauss, un peu plus connu, évidemment. Mais en première partie, c'était donc du Beethoven, et une œuvre qui, là aussi, n'est pas très courante en concert. Il s'agit de son triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre. Alors, il a composé 5 concertos pour piano, un seul pour violon, et un seul triple concerto. Et apparemment, je pense que ça doit être le premier compositeur à avoir réuni un violon, un piano et un violoncelle avec un orchestre symphonique. Par contre, il a servi d'exemple puisque j'ai constaté qu'il y avait une trentaine de compositeurs qui avaient réuni les mêmes instruments avec notamment des gens comme Malipiero, Martinou ou Tcherepnin. Donc il existe d'autres triples concertos. Et là, en l'occurrence, alors c'était un peu particulier puisque le chef invité, qui s'appelle Liu Kwokman, est originaire de Macao. C'est un jeune chef, très dynamique, vraiment plein d'énergie. Et pour ce triple concerto, il dirigeait l'orchestre et il tenait la partie de piano, puisqu'il est aussi pianiste. Donc, ce qui est tout de même exceptionnel. Donc, il dirigeait l'orchestre depuis le clavier et il était entouré par, comme violoniste, Christik Jesse, que l'on connaît bien, qui est le premier violon super soliste de l'Orchestre National du Capitole, et puis Marc Copé, le grand violoncelliste français que l'on connaît. Donc c'était quand même un beau trio. Et puis je voudrais quand même souligner la qualité du violoniste. C'est un musicien d'orchestre, mais il a prouvé à plusieurs reprises à quel point...
Moi je pense qu'il aurait la carrure pour être
un grand soliste. Là c'était vraiment magnifique. Alors donc ce concerto a été joué avec, comme je le disais, une énergie, une conviction tout à fait impressionnante de la part du chef qui se levait dans les moments où il n'avait pas à jouer du piano, qui se rasseyait pour embrayer sur la partition de piano. C'était vraiment tout à fait impressionnant, d'autant plus impressionnant qu'il a dirigé tout ça sans partition, ni pour sa partie de piano, ni pour la partie orchestrale. Donc vraiment, c'est un personnage, Liu Kwokman. Vraiment, c'est probablement un artiste que l'on reverra à Toulouse, puisque à la fin du concert, il a voulu dire à tout le monde à quel point il était heureux d'avoir dirigé cet orchestre. Donc, on espère le revoir à Toulouse dans d'autres œuvres, puisqu'il a l'air d'avoir un répertoire extrêmement large.
Encore un musicien qui se sent bien à Toulouse.
Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a les chanteurs, les chanteuses, mais les musiciens aussi, qui ont du plaisir à revenir. Donc, en particulier, le dernier mouvement de ce triple concerto, alors il y avait une espèce de vigueur, de ferveur incroyable qui était suscitée par la direction du chef, mais qui était très bien suivie par les deux solistes et par tous les musiciens. Et puis en deuxième partie, alors, il y avait tout d'abord cette suite que pour ma part j'ai découverte, qui est une suite pour la musique de scène que Korngold a composée pour Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Donc Korngold, on le sait, c'est un compositeur...
Musique de film, beaucoup.
...autrichien, et qui a dû émigrer, étant issu d'une famille juive, a dû émigrer aux États-Unis. Il s'est retrouvé à Los Angeles, plus exactement à Hollywood, et il a composé un nombre incroyable de musiques de film. Donc c'est vraiment un musicien de théâtre et de film, un musicien de l'image. Et ça s'est tout à fait senti dans ces cinq extrait de la musique de scène qui constitue sa suite, suite orchestrale, l'opus 11 donc. Et vraiment, on a pu redécouvrir la musique de Korngold que l'on avait découverte pour la plupart des mélomanes toulousains. Au Théâtre du Capitole, nous nous y retrouvons, puisque La Ville Morte avait été donnée à la fin de 2018, si je me souviens bien. Et donc, ça avait été une découverte importante et formidable. Vraiment, c'était vraiment un grand plaisir que de découvrir cette œuvre qui est quand même donnée, notamment dans le monde germanique, qui est donnée assez souvent. Mais chez nous, je pense que c'était la première fois, donc c'était la création de l'œuvre à Toulouse, et donc ça avait beaucoup, beaucoup intéressé le public. Cette suite également, qui est pleine de contrastes, avec une ouverture pétillante, et puis une poésie, un charme. Donc vraiment... grand moment, avec notamment deux solos instrumentaux qui, encore une fois, mettaient en valeur les grands musiciens de notre phalange symphonique. Et il y avait notamment un solo de violoncelle avec Sarah Yansou, qui est l'excellente violoncelliste que l'on connaît, et Bruno Dubarry, qui est un très bel altiste également. Donc, c'était une belle chose. Et puis, pour terminer le concert, de nouveau une suite, mais cette fois beaucoup plus connue, puisque c'était la grande suite du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Alors bon, on connaît bien l'opéra de Richard Strauss. Et là, dans cette grande suite, alors là, l'orchestre devait faire le plein, parce qu'il y avait du monde sur le plateau, je peux vous dire. Là, c'est érudilant, On connaît l'orchestration de Richard Strauss, l'utilisation des cors, bravo d'ailleurs au pupitre de cors qui a fait des merveilles, et le relief que le chef a donné à cette grande suite était vraiment formidable. Et d'ailleurs, c'était amusant de voir Liu Kwokman, le chef, qui s'investit de tout son corps, qui saute, qui est d'un dynamisme incroyable pour déployer cette énergie et cette allégresse pour cette belle œuvre, une œuvre magnifique. L'ovation a été telle qu'il est revenu pour donner un bis, C'est rare, un bis à l'orchestre. Eh bien, il l'a fait. Il avait préparé ce qui... Alors, il l'a dit en français, avec un français un peu difficile, mais il a tenu à le dire en français, qu'il souhaitait offrir un cadeau, là aussi, au public toulousain, sous la forme d'un bis tout à fait souriant. Et il s'agissait de la valse Voix du printemps, d'un autre Strauss, hein, le Strauss de Vienne, le roi de la valse. Donc, une belle conclusion sous forme de sourire qui éclaircissait un peu les aléas qui sont ceux de notre époque.
Un programme très germanique, donc. Alors, l'œuvre qui était au centre de ce programme, justement, c'était bien sûr le triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre de Monsieur Ludwig van Beethoven. En voici un extrait, le premier mouvement Allegro, dans une version interprétée par Sviatoslav Richter, David Oistrakh, Mislav Rostropovich, accompagné par le Berliner Philharmoniker d'Herbert von Karajan. Le premier mouvement Allegro du triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre de Beethoven, dans une version interprétée par Sviatoslav Richter, David Oistrakh, Mislav Rostropovich, accompagné par le BPO, sous la direction d'Herbert von Karajan. Dernier concert sur lequel nous allons revenir maintenant, celui qui a clôturé la 25e édition de Toulouse les Orgues, c'était dimanche après-midi à la cathédrale Saint-Étienne. Serge Chosy, vous y étiez encore, et c'est l'ensemble concert de la loge qui s'est produit à cette occasion, avec l'organiste Benjamin Allard. Je me suis laissé dire que vous avez beaucoup apprécié et le programme et ceux qui l'ont joué.
Oui, tout à fait. Alors, c'était un programme qui sortait du tout venant, hein, puisque c'était un programme Mozart-Haydn, tout à fait logique, hein, d'associer les deux compositeurs, et surtout les musiciens. Alors, pour les musiciens invités, Benjamin Allard, il est déjà venu de nombreuses fois, c'est un très grand organiste français, bon, on le connaissait. Par contre, on ne connaissait pas l'ensemble instrumental qui l'accompagnait et qui s'appelle le Concert de la Loge. D'ailleurs, il faut préciser, et ils le précisent bien dans leur biographie, qu'initialement, il s'appelait le Concert de la Loge Olympique. Et malheureusement, pour ce nom, pour ce titre, le Comité National Olympique s'est opposé à l'usage de l'adjectif olympique. Et donc, c'est devenu le Concert de la Loge tout court. Un ensemble, en l'occurrence ici, d'instruments à cordes, surtout, avec un orgue positif, qui est vraiment de grande qualité, vraiment d'une finesse, d'une sensibilité. Et ce bel ensemble est dirigé du violon par Julien Chauvin, l'excellent violoniste, donc qui est non seulement le soliste, mais le directeur musical de cet ensemble. Alors, tout a commencé par deux pièces de Mozart jouées au grand orgue de la cathédrale, le fameux orgue Henny d'Hirondelle, hein, que nous connaissons.
Très impressionnant.
Complètement impressionnant, une très grande orgue. Oui. C'est l'un des buffets, je crois que c'est le buffet le plus ancien de Toulouse. Ensuite, l'intérieur de l'orgue a été refait. Oui. Hein. Mais donc, c'est un orgue particulier. Et là, il a joué, Benjamin Allard a joué deux œuvres de Mozart. Tout d'abord, extrait de la suite Köchel 399, deux mouvements, deux extraits, une ouverture allemande. Alors, ce sont des œuvres... Les œuvres pour orgue de Mozart, elles sont rarissimes, hein. Il en a composé assez peu, et donc là, on a eu droit à deux œuvres, donc c'était très bien. Des œuvres extrêmement transparentes, écrites pour l'orgue. La deuxième œuvre de Mozart était l'Adagio et Fugue, en fa mineur, qui résonne un peu comme un hommage à Bach. On sait que Mozart admirait Jean-Sébastien Bach, et la fugue en particulier contient un chromatisme, un développement du chromatisme qui est tout à fait impressionnant et qui évoque tout à fait Jean-Sébastien Bach. Alors Benjamin Allard a joué ça avec beaucoup de talent, de virtuosité, de finesse, de sens du phrasé, excellent. Et puis ensuite, deux œuvres de Joseph Haydn. Et tout d'abord, la symphonie numéro 49, qui s'appelle « La Passione », donc une symphonie qui a été créée aux alentours, évidemment, du Vendredi Saint, hein, donc une œuvre extrêmement dramatique et que l'on attribue à la période Sturm und Drang de Haydn. Il y a quelques symphonies de lui qui sont profondément dramatiques donc, et très intenses. Et c'était le cas ici avec cet adagio qui ouvre la symphonie, qui est une vraie déploration, et puis des agitations, le drame qui affecte les deux mouvements vifs, hein, avec simplement, dans le menuet, un peu d'apaisement, hein, qui apparaît. Donc c'était très très bien, une très belle exécution de cette symphonie, relativement célèbre quand même, de Joseph Haydn. Ensuite, toujours de Haydn, alors une œuvre totalement peu connue, qui est un concerto pour clavier, qui peut se jouer à l'orgue, mais à d'autres instruments aussi, notamment au pianoforte. Et là, c'était joué à l'orgue, en soliste à l'orgue positif, et Benjamin Allard est descendu de son nid d'hirondelle et est venu s'asseoir au clavier de l'orgue positif qui était intégré à l'orchestre. Et là, il s'agit vraiment d'une œuvre avec un esprit très léger, très coulant, très belle, avec de la tendresse, notamment dans l'adagio, un adagio très paisible, et puis un allegro tout à fait pimpant, comme Haydn savait les composer. Donc c'était vraiment un choix d'œuvre tout à fait original. Le succès a été là aussi énorme, donc vraiment, l'église était au maximum de ce qu'elle pouvait accepter, évidemment.
Comme la plupart des salles en ce moment.
Bon, évidemment, on a dû refuser des entrées, il y avait des tas de personnes qui arrivaient pour acheter des billets, il n'y en avait plus, voilà. Et l'ensemble a joué un bis avec Benjamin Allard, et ce bis, ils sont allés le chercher dans le répertoire pour orgue et orchestre, alors lui, très fourni, de Handel. Handel a beaucoup composé pour l'orgue et orchestre, des tas de concertos pour orgue et orchestre, et donc là, c'était un bis tout à fait bienvenu, qui clôturait ce 25e festival, et on espère et on souhaite un très heureux 26e festival pour l'année prochaine.
Alors, pour découvrir le concert de la loge, je n'ai pas la symphonie numéro 49 de Joseph Haydn, La Passione, mais nous allons écouter le final de la 82e symphonie de Haydn, connue également sous le nom de L'Ours. Le final de la 82e symphonie de Joseph Haydn, celle qu'on appelle aussi l'ours. Pour terminer cette première partie d'émission, nous faisons l'habituelle courte pause avant de retrouver nos invités pour la seconde partie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda est la seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, et avec donc Christophe Gristy, directeur artistique du Théâtre du Capitole, l'invité d'honneur de ce numéro, qui a donc maintenu le week-end Gabriel Fauré, programmé vendredi, samedi et dimanche, maintenu parce que ce n'était pas gagné d'avance, notamment pour l'opéra Pénélope, donné en version piano ce vendredi, et prévu initialement à 20h. Il a donc fallu l'avancer à 18h pour contourner la contrainte du couvre-feu à 21h. Vu de l'extérieur, l'affaire peut paraître assez simple, mais pour en arriver là, il a fallu avoir l'accord des artistes, bien sûr, mais peut-être plus encore celui de vos équipes. Est-ce que le personnel du Théâtre du Capitole a accepté facilement ce changement d'horaire, donc de jouer le jeu ?
Oh oui, bien sûr. La question n'est pas tant d'accepter, c'est de pouvoir organiser la chose. Une maison comme celle-là a un planning extrêmement contraint.
Je veux dire, c'est accepter les bouleversements que ça entraîne.
Oui, oui. Mais même quand il y a des difficultés, le premier mot de toutes les équipes, c'est « nous voulons jouer ». Voilà. Après, il suffit de trouver les solutions aux problèmes assez nombreux qu'un changement d'horaire peut poser. Un opéra en concert, c'est avec piano en plus, c'est moins lourd qu'une production. Hein. C'est moins lourd qu'une production de ballet ou d'opéra. Voilà. Donc, ça a été peut-être plus rapide que d'habitude. Mais en effet, donc les équipes ont suivi. On a le plaisir de proposer Pénélope à 18h. Je suis très heureux qu'il y ait peu de retours de billets. Le public suit une fois de plus. Donc, ça c'est formidable. Donc, la seule chose que nous avons supprimée de ce week-end Fauré, tel qu'il était prévu au départ, c'est l'exposition des manuscrits de Fauré qui devaient nous être donc prêtés par la Bibliothèque nationale de France, par le département de la musique. Mais évidemment, comme il n'est pas possible pour l'instant de provoquer des attroupements devant un objet, un manuscrit, etc. Et donc, évidemment, il a fallu supprimer l'exposition des manuscrits. Mais en revanche, nous avons maintenu tous les concerts. Les concerts du week-end étaient déjà en après-midi. Donc ça, il n'y a pas eu de...
Oui, là, heureusement, c'est déjà cadré comme il faut.
Absolument.
Alors oui, ce que je voulais aussi expliquer au public, aux gens qui nous écoutent, c'est que lorsque un opéra ou un récital se termine, pour le personnel, c'est pas fini.
Non, en effet. En revanche, donc le personnel du Capitole a une dérogation professionnelle pour
qui lui permet de rester éventuellement au-delà de 21h, comme ça se fait maintenant dans pas mal d'entreprises. J'espère qu'on va pouvoir garder cette possibilité de dérogation encore pas mal de temps. Alors, le week-end entièrement consacré à Gabriel Fauré, comment l'idée a-t-elle germé ? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ?
Bah écoutez, c'est vrai que déjà je dois dire que c'est ma passion pour Fauré.
Excellente raison et je la partage, donc on doit être plusieurs à la partager.
Ouais, donc pour Fauré, j'aime énormément Pénélope, son opéra, qui est un opéra rare. C'est Robert Pénavert qui m'a dit il y a quelque temps qu'il l'avait été joué pour la dernière fois au Capitole en 64. Donc ça fait un petit bout de temps, donc c'est le moment de rafraîchir la mémoire à tout le monde et de redire à quel point c'est un vrai chef-d'œuvre, très à part, évidemment. Hein, donc c'est un opéra de Fauré. Et Fauré et l'opéra, c'est pas du tout évident, parce que c'est pas du tout une nature dramatique. Ouais, ouais. C'est un musicien quand même avant tout poétique, onirique. Donc, le dramatisme de la scène, je veux dire, il est de l'époque, on peut dire, des véristes, etc. C'est un contemporain de Puccini. Mais il n'est pas du tout sur ce terrain-là. C'est d'ailleurs intéressant parce que, donc, Pénélope, c'est 1911. Ou 13, je crois que c'est 11. 1911.
Créé en 1913,
alors. 1913. Donc, si vous voulez, pas loin, vous avez le Chevalier à la Rose, vous avez Electra et Salomé, évidemment, juste avant. C'est intéressant parce que, surtout par rapport à Electra, je trouve, parce que c'est évidemment deux opéras antiques. Il y a des similitudes étonnantes. Il y a cinq servantes dans les deux opéras. C'est centré, évidemment, autour d'une figure féminine qui attend d'un côté la vengeance et de l'autre le retour de l'époux. Et c'est très intéressant de voir comment les deux mondes, justement, à la fois, donc, ces deux contemporains, et on voit bien que tous les deux, en plus, écrivent après Wagner, qui connaissent, évidemment, par cœur, et l'un et l'autre, et comment les deux voix sont différentes. D'un côté, avec le dramatisme absolu, l'outrance de Strauss, et de l'autre côté, avec en effet une connaissance parfaite de tout ce langage harmonique, chromatique et hérité de Wagner, la connaissance de Pélias et Mélisande, malgré tout, même si c'est un autre monde, et en même temps ce fil tenu, malgré le 19e siècle, en quelque sorte, moi qui suis un 19e-iste passionné, mais malgré le 19e siècle, ce fil tenu de la tragédie lyrique à la française, avec la déclamation noble, héritée de Gluck, notamment. Et donc, il y a toute cette histoire de l'opéra français qui se retrouve dans Pénélope, avec évidemment ce ton fauréen inimitable. C'est pour ça aussi que je me suis permis de le donner avec piano,
Parce que c'est la version d'origine, d'ailleurs.
C'est la version d'origine. Et le piano est l'instrument foréen par excellence.
Ah oui.
C'est son monde. Et quand vous allez entendre cette œuvre au piano et préparer comme si c'était comme une exécution tout à fait normale, vous allez entendre, en fait, une œuvre très à part qui est une gigantesque mélodie, un gigantesque nocturne en quelque sorte, pour piano avec voix obligée. Et c'est très différent de l'opéra. Je ne tombe pas du tout dans sur ce qu'on a pu dire sur Fauré, que c'est pas le meilleur orchestrateur du monde, etc. Tout ce qu'il fait est génial, donc c'est génial. Mais il y a évidemment dans Pénélope des moments de pompe. Le retour de l'époux, le triomphe d'Ulysse, c'est passé par rien. Et quand c'est accompagné par tout le chœur et par tout l'orchestre, c'est évidemment quelque chose. Quand c'est simplement accompagné par le piano, tout d'un coup, ça prend une couleur absolument incroyable. Et je pense que ça va être une surprise et une révélation pour le public, et je m'en réjouis beaucoup. Et on a une magnifique distribution. C'est 14 chanteurs, donc c'est le même nombre de chanteurs qu'un Parsifal ou qu'un Electra. Donc c'est un grand ouvrage, c'est conçu comme ça. C'est un grand ouvrage extrêmement intimiste.
Alors, on connaît surtout Fauré, pour le grand public en tout cas je pense, pour son Requiem et ses mélodies, également pour une partie de sa musique de chambre. Mais là, vous avez choisi finalement de montrer un peu toutes les facettes du compositeur pendant ce week-end, donc son unique opéra Pénélope. Et puis samedi, à 15h, vous mettez à l'affiche son œuvre pour piano seul, que je trouve personnellement très très belle, qui est le pianiste que nous allons entendre samedi après-midi.
Alors Nicolas Stavy, c'est un des meilleurs pianistes français d'aujourd'hui. Il a justement enregistré un disque Fauré qui est absolument magnifique. C'est délicat le piano fauréen parce que c'est un piano à la fois très virtuose et pas du tout spectaculaire. Et il faut un poète quand même vraiment pour pénétrer cet univers. Et le disque de Stavy est absolument splendide, d'où cette idée de l'inviter. Et après, c'est vrai que nous nous consacrons surtout à la mélodie. C'est le cas du Capitole, donc la voix est quand même...
Oui, bien sûr.
Et Dieu sait si j'adore la musique de chambre de Fauré. Les deux quintettes, pour moi, avec piano et cordes, sont un des sommets de la musique française. Mais au théâtre, on fait avant tout, c'est normal. Et puis la mélodie de Fauré, on l'entend rarement. C'est-à-dire le samedi, si je peux me permettre, samedi notamment, nous entendrons un cycle qu'on n'entend absolument jamais.
On va en parler, bien sûr.
Qui est la chanson d'Ève, qui est un cycle gigantesque. C'est une demi-heure de musique, c'est un cycle très rarement donné. Je me souviens, si vous m'accordez 20 secondes, d'une anecdote que m'avait racontée Irma Colassi. Irma Colassi, c'était une grande cantatrice, vraiment spécialiste de grec,
de
la mélodie. Oui. Et elle a enregistré d'ailleurs la chanson d'Ève. Et un jour, elle m'a raconté qu'elle l'interprétait, je ne sais plus où, il me semble que c'était à Aix-en-Provence, je crois. Et évidemment, le cycle c'était donc dans les années 50, le cycle était absolument inconnu, personne ne le chantait. Dieu sait si on chantait Fauré, mais toujours, les mélodies qu'on connaît, Le Secret, ce que vous voulez, Après un rêve. Et elle a chanté le cycle, et au bout d'une demi-heure, il n'y a pas eu un seul applaudissement, parce que les gens étaient tellement loin de leurs habitudes qu'il n'y a eu aucune réaction. Et elle a dit qu'elle avait, après, longtemps hésité à le redonner, alors que c'est un très grand chef-d'œuvre, tellement, en effet, c'est une œuvre à part, une œuvre qu'on peut penser austère. Donc j'espère que Victoire Bunel, qui l'interprétera samedi, ne sera pas confronté à cette réaction. Je compte sur notre public. Mais c'est pour dire que les grands piliers, par exemple, de l'œuvre mélodique de Fauré sont encore très, très peu joués et très peu connus. C'est inimaginable en Allemagne pour Schumann, Schubert, etc. On joue beaucoup leurs œuvres.
Alors, je vais revenir à Nicolas Stavy. Donc, je vais juste... Non, non, mais c'est pas grave. On va revenir tout à l'heure donc, au grand cycle de mélodies de Fauré, bien sûr. Je vais juste indiquer le programme que va jouer Nicolas Stavy. Il n'y a pas toute l'œuvre au piano, bien sûr, parce qu'elle est vaste. Donc, il y aura le nocturne numéro 1 mi bémol mineur, les trois romances sans parole, donc inspirées par les poèmes de Verlaine, la sonate numéro 5, la mazurque numéro 8, pièce en forme de mazurka, et donc les nocturnes 6 et 13, et la ballade opus 19. Alors, c'est un programme très riche. On va en avoir un aperçu tout de suite. J'ai choisi de vous faire écouter la troisième des romances sans parole. C'est une pièce magnifique dont la version que vous allez entendre est extraite du CD Fauré de Nicolas Stavy. Thank you. La troisième romance sans parole de Gabriel Fauré, jouée par Nicolas Stavy, un extrait du CD qu'il a consacré aux pièces pour piano du compositeur ariégeois, puisque, je le rappelle, Gabriel Fauré est originaire de Pamiers. Nicolas Stavy est donc en récital ce samedi 24 octobre à 15h au Théâtre du Capitole. Et juste après, à 18h, ce sont les grands cycles de mélodies qui sont au programme. On sait que c'est une part importante de l'œuvre foraine, vous l'avez rappelé, mais là, bon, c'est pas celle qu'on entend le plus souvent. Donc il y aura trois musiciens sur scène, dont deux chanteurs en alternance, une voix masculine, une voix féminine, qui sont ces chanteurs et leur accompagnatrice.
Alors c'est deux chanteurs qui font, je dirais, partie de la troupe de la maison. Deux chanteurs français extrêmement talentueux, Victor Bunel, mezzo-soprano, elle toute jeune en effet, qui sera notre Mélisande dans quelques mois. Vraiment quelqu'un d'extrêmement doué, que je connais depuis ses années de conservatoire. Et de l'autre côté, Mathias Vidal, qu'on a entendu très récemment dans Ferrando,
dans Cosi,
qui chante Antinous dans Pénélope. Et c'est un tel styliste. Mathias Vidal, il a grandi dans la musique ancienne. Et évidemment, et par sa sensibilité propre et par cette expérience, il a cet art du mot qu'il faut avoir pour la mélodie française et ce sens du phrasé français. Et donc voilà, j'étais heureux qu'il accepte de participer à ce concert. Donc il y a quatre grands cycles foréens qui vont du plus court, du plus bref au plus long. L'horizon chimérique, chef-d'œuvre absolu. Mirage, chef-d'œuvre absolu. La chanson d'Ève, météore incroyable dans l'histoire de la musique française. Et les mélodies de Venise qui sont un bijou.
Les titres sont déjà tout un programme, je trouve. Alors que l'accompagnatrice, la pianiste qui va accompagner les deux chanteurs,
c'est l'accompagnatrice,
de Victor Bunel,
attitrée, voilà, hein. Et aussi élève du conservatoire. Elles se sont connues là. Elles sont élèves d'Anne Lebozek, qui elle-même est la pianiste de Pénélope vendredi soir. Donc c'est la famille du CNSM en quelque sorte, la famille du CNSM et du Capitole.
Son nom, Sarah Ristorcelli. Très jeune pianiste qui accompagne aussi Léa Desandré, enfin qu'on voit beaucoup accompagner des chanteuses pour de la mélodie. Pour revenir à Victoire Bunel, je ne sais pas si vous vous souvenez, Serge, on l'avait écouté à Musique au Palais il y a presque un an, dans un programme de lead. Là, elle était accompagnée par Nino Pavlenichvili et ça avait
bien
été formidable.
Aussi. Ah oui, magnifique, c'est un très beau timbre. Vraiment, je l'imagine tout à fait dans ce programme.
Entre Mathias Vidal et Victor Bunel, lesquels vont chanter les cycles que vous venez de nous citer?
Alors, Victor Bunel chante la chanson d'Ève et Mathias Vidal les trois autres cycles. Et les trois autres cycles, tous les trois sont moins longs que la chanson d'Ève. Donc, le concert pour...
C'est équilibré, en fait.
C'est équilibré. Et voilà, je pense pour le public, c'est avec les histoires de couvre-feu, c'est important de le savoir. Le concert commence à 18h et finit à 19h15.
Oui, on a vraiment le temps d'aller boire un verre, même de manger. Profitez-en pour aller au restaurant tout de suite en sortant. Ça fera travailler les restaurateurs autour de la place du Capitole. Et bien, pour vous faire entendre un extrait de ce programme, je vous propose d'écouter maintenant Victoire Bunel, accompagnée par Sarah Ristorcelli, dans une interprétation de « Ô mort, poussière d'étoiles », dernière mélodie du cycle La chanson d'Ève. Toi que je veux m'étendre. Ô mort, poussière d'étoiles, dernière mélodie du cycle, la chanson d'Ève, chantée par Victoire Bunel, accompagnée au piano par Sarah Ristorcelli. Donc, les grands cycles de mélodie, c'est samedi à 18h avec Victoire Bunel, Sarah Ristorcelli et Mathias Vidal. Et dimanche à 16h, encore des mélodies avec le duo formé par le baryton Marc Moyon et la pianiste Anne Lebozec, l'accompagnatrice dont vous venez de nous parler. Vous avez appelé ce programme qui s'annonce très copieux, Forêt et ses poètes, en référence au titre du CD qu'ont fait paraître récemment Marc Moyon et Anne Lebozec. On va y retrouver les mélodies les plus connues du compositeur, mais aussi d'autres qu'on entend moins souvent. Il y en a tout de même 30 en tout. C'est vraiment copieux.
Bon, c'est copieux, court, hein, ça fait 1h10 en fait.
Mélodies courtes. Hein.
Voilà, c'est des mélodies assez brèves. C'est en gros le programme du disque qui est sorti, qui a obtenu absolument toutes les récompenses possibles, imaginables, non seulement en France, mais surtout en Angleterre, par Gramophone, etc. Marc Moyon, je suis très heureux qu'il vienne au Théâtre du Capitole. Lui aussi, il sera dans Péléas, ce sera notre Péléas dans quelques mois. C'est un chanteur très à part. C'est un extraordinaire diseur. Et évidemment, il travaille avec Anne Lebozec depuis très très longtemps ensemble. Il y a une complicité entre les deux magnifique et puis une recherche commune, une recherche de la poésie, et de la poésie au sens fort, c'est-à-dire aussi de l'étrangeté, de nous emporter quelque part. Et ils ont conçu en effet ce programme comme un voyage avec les grands poètes qui ont accompagné Forêt, depuis évidemment Verlaine, qui est en gros le poète de départ en quelque sorte. Le premier poète qu'il a trouvé et où il s'est reconnu, Jean Kélévy, je comparais vraiment l'alliance de Forêt et Verlaine à celle de Schumann et de Heine. C'est vraiment avec Verlaine que Forêt trouve sa couleur, déploie ses ailes et déploie son lyrisme. Et après, il est allé jusqu'au poète symboliste. Il a vraiment accompagné l'évolution de la poésie de la fin du 19e au début du 20e siècle, avec un ton très, très, très différent. Et donc, ils font ce voyage à travers les grands poètes de Forêt. Là, c'est à 16h, ça dure 1h10 également. Je ne peux que recommander à notre public de venir entendre ces deux artistes tellement extraordinaires, tellement à part.
Alors Marc Moyon, quand on lit un peu sa biographie, il est tantôt ténor, tantôt baryton. Ça veut dire quoi? Qu'il est baryton aigu? C'est comme ça qu'il faut traduire?
Baryton Martin.
Oui, baryton Martin. On
l'appelait baryton Martin.
Pour employer le mot, le joli mot, voilà.
C'est parfait pour Martin,
c'est baryton aigu. Alors, on va écouter justement Marc Moyon et vous parliez de ses qualités de diseur. Il a une diction exceptionnelle. C'est très rare d'entendre la mélodie, les mots aussi proprement.
Et ce ne sont pas toujours les Français qui ont la meilleure diction.
Lui, c'est l'exception.
Lui, vraiment.
Qui fait mentir le dicton. Donc voici une illustration du programme et du CD Forêt et ses poètes avec la mélodie Le papillon et la fleur, composée sur un poème de Victor Hugo et chantée par Marc Moyon, accompagné par Anne Lebozec.
Fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux, et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Mais hélas, l'air t'emporte et la terre m'enchaîne, sort cruel. Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi des fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi. Pour
prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme à toi.
Le papillon et la fleur, mélodie de Gabriel Fauré sur un poème de Victor Hugo, chanté à l'instant par Marc Moyon, accompagné par Anne Le Bozec, une de celles qu'on retrouve sur leur CD et dans le programme Fauré et ses poètes, à découvrir dimanche à 16h au Théâtre du Capitole. Et bien, j'avais prévu de parler de l'exposition qui avait lieu en marge de tous ces concerts. Malheureusement, elle est annulée, donc on va en rester là-dessus. Ce numéro de Mélomanie est terminé. Merci à mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert de m'avoir assisté dans son animation, et merci bien sûr à Christophe Gresti d'en avoir été l'invité et de nous avoir présenté ce week-end dédié à Gabriel Fauré au Théâtre du Capitole. Je rappelle la programmation, donc après Pénélope ce vendredi. Samedi à 15h, l'œuvre pour piano seul de Gabriel Fauré par Nicolas Stavy. Toujours samedi à 18h, les grands cycles de mélodies interprétés en alternance par Victoire Bunel et Mathias Vidal, accompagnés par la pianiste Sarah Ristorcelli. Et enfin dimanche à 16h, Fauré et ses poètes, l'autre versant des mélodies composées par Fauré, chantées par le baryton Marc Moyon, accompagné au piano par Anne Le Bozec. N'hésitez pas à vous renseigner, à réserver et à acheter vos places en ligne en vous connectant au site www.theatreducapitole.fr. Avant de terminer, je signale aussi que les concerts du Toulouse Wind Orchestra, prévus vendredi 30 et samedi 30 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines, sont eux aussi maintenus. Celui du vendredi est avancé à 18h30 et celui du samedi à 16h. Le TWO va y fêter ses 5 ans d'existence avec un programme autour du rythme et de la danse, ainsi que des extraits de son nouveau CD. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h, ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous. Allez au concert, allez au Théâtre du Capitole.